Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Jean d'Ormesson, qui vient de publier aux éditions Héloïse d'Ormesson un livre intitulé tout simplement « La conversation ». Ça se passe un soir de l'hiver 1803-1804, aux Tuileries. Jean d'Ormesson imagine un long dialogue entre Bonaparte, premier consul à vie, et Cambacérès, deuxième consul. Le futur Napoléon explique à Cambacérès à quel point le système du consulat à vie lui paraît bancal, et arrive à la conclusion qu'il faut instaurer l'Empire, un empire qu'il conçoit évidemment comme un empire glorieux. Et il entend bien que Cambacérès, homme d'influence, l'aide à parvenir à ses fins. Voilà une conversation qui pourrait avoir pour sous-titre « Au plaisir de l'intelligence ». Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, en cet hiver, donc 1803-1804, Bonaparte considère que son régime est fragile et pourtant le bilan du consulat est déjà plus que remarquable.
Le bilan est remarquable, il faut dire que la situation que Bonaparte a trouvée le 18 et 19 mai était catastrophique. Catastrophique. La France était vraiment dans un état lamentable. Après 10 ans de troubles et après 3 ans de révolution violente, le 9 Thermidor avait mis fin à la dictature du Comité de salut public. Mais ce qui était venu après était, selon la formule d'un historien, une sorte de tyrannie haletante. Le Comité de salut public, c'était un peu rude à la fin. À la fin, on guillotinait 60-80 personnes par jour, ce qui est quand même pas mal. Sous le Directoire, on ne guillotine plus beaucoup, mais plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. La monnaie a perdu 90% de sa valeur, la rente est tombée à presque à rien, les ports sont fermés, Marseille et Bordeaux ne fonctionnent plus, l'industrie est à peu près morte, les forêts sont ravagées, la sécurité n'existe plus. Vous ne pouvez pas aller de Paris à Marseille. Il faut acheter des laissez-passer à des bandes. Vous ne pouvez pas aller de Paris à Brest, vous êtes attaqué. Et donc, en un an ou en 2 ans, Bonaparte rend confiance et espérance aux Français.
Il remet la France sur les rails, quoi.
Et il faut dire qu'il ne viole à aucun moment le peuple français.
Qu'il adore.
Le peuple français l'adore, le vénère. Il y a 3 référendums qui se succèdent, l'un pour le consulat, l'autre pour le consulat à vie, avec droit de choisir son successeur. C'est quand même inouï. Et un troisième pour l'institution de l'Empire. À chaque fois, c'est 3,5 millions de voix contre quelques milliers en Vendée. Bonaparte combat les Chouans. En Vendée, il a, je ne me rappelle pas le chiffre exact qui est dans la conversation, il a 17 ou 37 000 voix contre quelques centaines. Et à droite et à gauche, pour les motifs opposés, les Français adulent Bonaparte.
Alors ce que vous expliquez, c'est que lui-même, ce dont il est le plus fier, c'est de cela, et non pas de ses victoires militaires.
Eh bien, naturellement, Bonaparte est un grand capitaine. Il est un grand capitaine, il est l'égal d'Alexandre le Grand, de César, d'Hannibal, de Charlemagne, de Charles Quint. À mon sens, il est peut-être un peu plus que, parce que tous les autres sont des héritiers. Jules César n'appartient pas à une famille royale, mais sa famille descend de Vénus, c'est encore mieux. Tandis que Bonaparte se fait lui-même. Mais en dehors de ce stratège de génie, il a un usage des mots qui est extraordinaire. C'est un grand, grand lecteur. Il lit tout ce qu'il trouve. Quand il part pour l'Égypte, il emporte 40 caisses de livres. Et pas des livres pour meubler les bibliothèques, des livres qu'il va lire. Il a une mémoire stupéfiante. Dans l'Empire, au cours de l'Empire en 1808 ou 1909, il y a une discussion sur un point de droit et il récite un extrait des Digestes de Justinien. On lui dit « Mais vous avez lu ça récemment ?» Il dit « Non, j'ai lu ça quand j'étais à Aussonne à 19 ans. » Il s'en souvenait. Il est inouï, n'est-ce pas, d'intelligence, de brillance. Et c'est amusant de mettre en face de lui Cambacérès. J'avais naturellement pensé à un dialogue entre deux grands esprits, Bonaparte et Talleyrand. Mais Talleyrand, d'abord, aurait trop tiré la couverture à lui.
Et puis il faisait peur à Napoléon.
Il pensait qu'à lui, absolument. Et puis, il n'était pas très intéressant à convaincre. Il voulait faire de Bonaparte un roi. Et d'ailleurs, Bonaparte ne voulait pas devenir roi. C'est exactement la même situation que César.
Alors c'est très intéressant parce que vous nous expliquez effectivement qu'il considère que la monarchie des Bourbons a rapetissé le...
Voilà, a rapetissé.
C'est ça, c'est le mot. Bourbons.
Au fond, il n'est pas très hostile à l'Ancien Régime. Il trouve que les Bourbons n'étaient plus bons à rien.
C'est ça.
Voilà,
hein,
voilà la vérité. Et il avait juré haine à la royauté. Et quelques-uns de ses camarades allaient plus loin. Bernadotte avait tatoué sur la poitrine « Mort au roi ». Et il devient roi de Suède. C'est une situation extraordinaire.
Alors, il ne veut pas rétablir la monarchie, fût-ce pour lui-même, mais il ne veut pas non plus pérenniser la Révolution. Et vous faites un distinguo très précis entre ce qu'il attache à la Révolution et ce qui le fait prendre ses distances à l'égard de la Révolution. En fait, il tient à la Révolution par un certain aspect de l'égalité, mais pas du tout par la liberté. Alors, la notion de liberté... Ça, c'est une surprise.
Alors,
un peu.
Il veut achever la révolution aux deux sens du mot « achever ». Il veut la pousser à bout. Et c'est un général républicain. Son patron, c'était Robespierre. Et ils vont donc... Et il est très attaché aux conquêtes de la révolution. Et en même temps, il veut achever la révolution, il veut mettre fin au désordre. À quelle conquête est-ce qu'il est attaché? Il pense que la liberté, c'est de la frime. Il pense que ce que veulent les Français, c'est l'égalité. Et l'égalité, la liberté, évidemment, il va la sacrifier, mais l'égalité, il la leur donne. On lui dit, vous rétablissez une cour, vous rétablissez un protocole. Il dit, oui, mais mon beau-frère Murat est fils d'aubergiste, l'âne est maçon, un tel est ouvrier agricole.
Un né fils de tonnelier.
Un autre, voilà.
Au gros maçon.
Voilà, la femme de Lefebvre, du maréchal Lefebvre. Et
Lavandière, c'est ça, oui.
Il a des formules extraordinaires. Il dit, la formule de l'Ancien Régime, c'était à chacun selon sa naissance. La formule de la Révolution, c'était l'égalité ou la mort. Ma formule à moi, c'est à chacun selon ses mérites.
Mais alors, dans cette vision-là de ce qui sera l'Empire, est-ce qu'on ne retrouve pas, au fond, la vision que Montesquieu avait de la République des vertus
sous
Montesquieu ?
C'est tellement vrai ce que vous dites.
C'est proche.
Que Bonaparte prétend incarner la République. Et vous savez que dans les premiers temps de l'Empire, après il oubliera un peu, mais dans les premiers temps de l'Empire, la formule officielle est République française, Napoléon empereur. C'est ça la formule. Et alors après, évidemment, Napoléon va être pris par la fameuse hubris des Grecs, la folie, l'orgueil, et il va aller en Espagne où ça va aller déjà mal, et il va aller en Russie où ça sera catastrophique.
Mais dans cette vision de la République-là, on pense plus tard au général de Gaulle, au fond, quelque part.
Bien sûr, il y a les mêmes formules, n'est-ce pas ? Il a les formules de Gaulle, ou de Gaulle a les formules de Bonaparte. Je ne veux pas de parti, je ne veux pas de faction. Oui. Je suis solidaire de l'ensemble de l'histoire de France, de Clovis à la Convention nationale. Je ne veux ni de Jacobins, ni d'aristocrates. Mon seul parti, c'est la France.
Et cette formule extraordinaire, précisez-la quand même, parce que c'est vraiment étonnant. J'ai l'imagination républicaine et l'instinct monarchique.
Tout est là. C'est un républicain qui veut l'ordre. Et c'est quelqu'un qui croit à l'égalité.
Des chances, des chances.
Des chances, ouais. Des chances.
C'est ça, pas des situations.
Et vous savez, la révolution était inévitable à partir du moment où Ségur avait fait passer un décret en 1780. Et ce décret interdisait l'accès au poste élevé de l'armée à quiconque n'avait pas 12 ou 14.
Oui, c'est ou 16. L'idée des quatre quartiers, c'est l'édit des quatre quartiers, c'est ça. Ouais.
Et alors, vous voyez
c'est
bien,
ça, la, enfin, en fait, c'est là l'origine de la
c'est
révolution.
C'est là, l'origine de la révolution oui, est là. Vous voyez bien qu'à la fin de Louis XVI, il n'y a pas de grand capitaine. La révolution a lieu avec tous ces drames. Et vous avez Bonaparte, Junot, Hoche, Marceau, Kléber, Lannes, Davout, Berthier, tous des génies. Vous voyez bien que la révolution était inévitable. Et si ça n'avait pas été Bonaparte qui la prenne en main, ça aurait été un de ses
oui,
officiers.
Un condottiere quelconque, quoi.
Un condottiere quelconque.
Alors, vous soulignez son attachement à Charlemagne.
Oui.
Pourquoi Charlemagne ?
À Charlemagne.
Pas aux Capétiens, pas. Non, c'est les Carolingiens, c'est Charlemagne. Pourquoi ?
Parce qu'il ne veut pas. Il y a deux grandes fractures dans l'histoire de France. C'est la monarchie et l'Empire. Charlemagne, c'est l'Empire.
C'est le César français, un peu, Charlemagne.
C'est César. Alors, il se rattache à César et à Charlemagne.
D'où l'aigle, d'ailleurs.
Et il le dit très ouvertement, j'ai juré haine à la royauté, je n'ai jamais parlé de l'Empire. Et donc, il abandonne les Capétiens, les Mérovégiens et surtout les Bourbons, qui oui, n'estiment pas petits, beaucoup. Et il se rattache au César et à Charlemagne. Et en ce sens, il est un des ancêtres de l'Europe. D'une Europe naturellement non démocratique, mais d'une Europe, il pense unifier l'Europe. Et ses rêves, en réalité, vont plus loin que la France et ils vont plus loin que l'Europe. Vous savez que son grand projet, c'était de descendre sur les Indes.
Alors là, c'est la surprise pour quelqu'un n'ayant pas votre culture, c'est-à-dire quelqu'un comme moi. C'est la grande surprise de ce livre. C'est de voir à quel point il a 34 ans, à quel point il est déjà dans la démesure la plus totale. C'est-à-dire que l'Europe, c'est bien, mais ce qu'il veut, c'est être le maître du monde. Mais alors, est-ce que vous ne tordez pas le cou, là, à une idée reçue qu'on nous a presque tous enseignée ? Que finalement, si Napoléon a été entraîné sous l'Empire à faire guerre sur guerre, ça n'est pas parce qu'il le souhaitait et qu'il le voulait, mais parce qu'en fait, il y a eu une coalition intraitable. Alors qu'en fait, quand on lit la conversation, on se dit que c'était écrit, quoi. C'était écrit parce que les termes sont explicites. Je veux dominer le monde entier. Si on me laisse le faire, tant mieux. Si on ne me laisse pas le faire, je ferai la guerre.
Oui, c'est
donc,
ça.
C'était écrit.
C'était écrit et il se trompe sur un point. Il se trompe sur un point, okay. Il dit « Je suis entré à Venise, je suis entré à Milan, je suis entré au Caire, j'entrerai à Vienne, j'entrerai à Berlin, j'entrerai à Moscou,
hein.
Je débarquerai en Angleterre. » Et il n'a pas débarqué en Angleterre, et c'est évidemment l'Angleterre qui est derrière toutes les coalitions qui vont abattre Napoléon, et finalement c'est un Anglais, c'est Wellington qui va l'emporter.
Donc tout ça est très logique. Quoi.
Tout ça est assez logique.
Alors vous le présentez donc comme un homme avide de puissance, mais au fond, et c'est tout l'intérêt de ce livre, parce que vous levez un peu le voile là-dessus, le moteur de cette avidité, quel est-il ? Qu'est-ce qu'il fait courir, en fond ?
Je dirais deux choses. D'abord, il a des moyens extraordinaires, l'intelligence, la mémoire. Mais les deux choses qu'il font courir, c'est d'abord l'imagination. C'est pour ça que la conversation est amusante, parce qu'il dit, lui-même, à un moment, dès que j'ai pensé quelque chose, c'est comme si c'était déjà fait. Et il dit à Cambacérès, ne parlez pas de cette conversation, mais tout ce que nous avons dit va se réaliser. Et en effet, dès qu'il a une idée, il la réalise. Donc l'imagination...
Mais à la différence du général de Gaulle, puisqu'on parlait du général de Gaulle tout à l'heure, lui, il va rentrer dans tous les détails. Ce qu'il dit, je ne laisse rien au hasard.
Vous savez qu'en même temps qu'il a des plans sur la planète, il veille à ce que les chaussettes et les godillots, enfin c'est pas des godillots à l'époque, et les souliers arrivent à telle ou telle unité qui en manque et que la nourriture qu'on donne à tel régiment soit bonne. C'est stupéfiant. Et évidemment, il y a l'imagination et l'ambition. L'ambition, il est un homme, il dit je ne suis qu'un homme, mais il est un homme avec des moyens évidemment exceptionnels.
Et qui ne peut plus se passer de gloire,
voilà.
Et qui ne peut plus obéir. Il le dit très très crûment. Alors vous avez choisi donc Cambacérès comme interlocuteur pour lui, probablement parce que c'est un excellent relais à ce moment-là, mais il y a aussi une chose qui frappe là-dedans, et qui est assez étonnante, c'est qu'au fond, Bonaparte et Napoléon n'ont été entourés que de très peu de civils d'envergure. Il y en a très
oui,
peu.
Oui, mais quelques-uns
comment ça
quelques-uns qui étaient quand même géniaux, n'est-ce pas ?
Il y en a peu.
il y a Bonaparte, il y a Chateaubriand, que je retrouve de l'autre côté, n'est-ce pas
on y reviendra.
Voilà. Talleyrand, Fouché, qui est quand même très
brillant. Oui, il se méfiait de ces trois-là.
Avec
raison, d'ailleurs.
À un moment donné, beaucoup plus tard, il dira à Fouché, « Dites donc, Fouché, vous avez voté la mort du roi. » Et Fouché lui répond, « Sire, c'est le premier service que j'ai eu le bonheur de rendre à votre majesté. » C'est quand même très brillant. Et Cambacérès est aussi très intelligent. Il m'a semblé naturel de le prendre. Il est le deuxième consul, il est le premier personnage après Bonaparte.
Et il a fait beaucoup de choses, en
plus. Et en plus, il est régicide, ultra...
Avec réserve.
Vous savez ce que c'était, les réserves ?
Non.
Les réserves, c'était... Il voulait que Louis XVI ne soit pas guillotiné, soit conservé comme otage, et qu'on fasse savoir qu'on le guillotinerait si les Autrichiens pénétraient sur le territoire français. C'est ça, les réserves. Et il est très partisan du régime d'assemblée et très hostile au gouvernement personnel. Et donc, en une heure, Bonaparte va le retourner comme une crête.
Alors, il y a une chose drôle, c'est que Bonaparte semble très préoccupé par l'homosexualité de Cambacérès. Et vous lui faites dire ceci, « Mais je voudrais vous éviter d'être traité de tante turlurette par les gamins des rues. » Alors, Bonaparte était capable de cet humour très gaulois, militaire, à la De Gaulle encore, ça.
À la De Gaulle.
Il était capable de cela.
Le mot turlurette,
tante turlurette, est
de Bonaparte.
C'est vrai ?
En réalité, vous savez, il se moque bien que l'autre soit homosexuel ou pas. Mais il ne veut pas que ça trouble la politique. Il ne veut pas qu'on le traite de tante turlurette. Déjà, Talleyrand avait ramassé les trois consuls, Bonaparte, Cambacérès et le moins connu qui était Lebrun, par une formule latine quand même très amusante, hic, ec, hoc. Alors hic, c'est lui, c'est Bonaparte, ec, c'est elle, Cambacérès, et Lebrun, c'est hoc, ça.
Alors, quand nous étions au collège, quand nous sommes à peu près de la même génération, on nous apprenait, j'ai encore en tête la formule, que Bonaparte était petit, sec, pâle et nerveux. Et vous ajoutez, il a mauvaise mine.
Oui, il a mauvaise mine.
Ah, ça, c'est drôle, ça.
Ah oui, il est très olivâtre. Il est olivâtre, il est très tiré. Je crois quand même qu'il ne dormait pas assez. Il doit dormir 4 ou 5 heures par nuit. Et il va devenir un peu plus... moins maigre, un peu plus rond, tout de suite après l'Empire. Mais jusqu'à 1804, il est efflanqué et il a l'air d'un chat sauvage, certainement.
Alors, autre chose qui tranche un peu avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, vous le montrez comme quelqu'un, certes, capable d'humour par moment, mais cassant quand même.
Ah ben, cassant, il va bien le montrer. À un moment donné, il va falloir donner des gages. C'est après la conversation. Il va falloir donner des gages à la gauche. La gauche, c'est un anachronisme. Il n'y a pas de droite et de gauche à l'époque. Il faut donner un gage au régicide et il va faire tuer le duc d'Enghien.
Oui, très peu de temps après, là.
Très peu de temps après. Et quand il enlève le duc d'Enghien en territoire étranger, il le fait enlever en Allemagne et qu'il le fait fusiller, sa décision est prise. Il veut devenir empereur. On voit bien que l'idée d'être empereur doit se situer quelque part entre Marengo et le début de 1804. C'est pour ça que j'ai mis la conversation dans l'hiver 1803-1804. Il y pense sûrement depuis un an déjà, mais on en parle assez peu. Et évidemment, c'est très difficile de savoir quel moment il y pense.
On voit la période, quoi.
J'ai tout ramassé en une heure et demie.
Alors, il a les mêmes yeux que vous, à une différence près, c'est que les siens sont carnassiers.
Oui, ils sont carnassiers. Tout le monde dit que les yeux de Napoléon et de Bonaparte vous pénétraient jusqu'au tréfonds.
Autre chose surprenante, il a gardé un peu d'accent,
Il a l'accent corse.
Oui, il a encore l'accent.
Il a l'accent corse.
Ça doit être
et là,
assez
je n'ai pas osé le mettre dans le livre, mais il a l'accent corse. Et s'il se met en colère, le corse revient, l'italien revient.
On évoquait son cynisme, donc. On peut dire qu'il ne croyait pas beaucoup en la nature humaine. La vanité, les hochets, et puis avec ça, on fait tout ce qu'on veut. Et il y a son hyper-réalisme. Alors là, vous reprenez des formules de lui, peut-être en ajoutez-vous quelques-unes. Le passage probablement le plus saisissant concerne la religion.
Alors là, c'est...
Vous avez tout pris, c'est intégral, Napoléon,
oui,
ça, ou pas?
À peu près intégral.
Ah là là, vous le savez bien, Cambacérès, la religion n'est pas pour moi le mystère de l'incarnation, c'est le moyen de l'ordre social. Nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de morale sans religion, il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable. Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. J'ai été, alors ça c'est extraordinaire, j'ai été mahométan en Égypte, j'aurais été bouddhiste en Inde, je suis catholique ici pour le bien du peuple, parce que la majorité est catholique. Je ne crois pas au bilvesé métaphysique.
Tout ça,
c'est du Maurras avant Maurras. Hein.
Tout ça est absolument authentique.
Maurras.
Il ne croyait à rien, il croyait peut-être à l'être suprême.
Ouais,
vous savez qu'il y avait quelqu'un, il est très cynique. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas cynique, qui a été son maître. C'était Rousseau.
On a du mal à imaginer cette filiation.
Rousseau, on pourrait presque soutenir que Rousseau a eu 3 enfants.
Dites.
Un enfant d'extrême gauche, Robespierre, qui adorait Rousseau, l'être suprême. Un enfant de droite, Chateaubriand.
Et presque adultérin, lui.
Presque adultérin. Et un enfant qui le trahit, c'est Bonaparte. Et Bonaparte adorait Rousseau. Et à la fin de sa vie, il y a une formule qui n'est pas dans le livre, mais qui est très belle. Il dit « Peut-être aurait-il mieux valu, pour le bonheur des peuples, que ni lui, ni moi, ne soyons jamais venus au monde. »
Ah, c'est tout à fait curieux. C'est étonnant cet attachement, alors qu'en fait, en tant que forme d'esprit, il était plus proche de Voltaire.
Oui, eh bien, sûrement... Il était plus proche d'esprit de Voltaire. Il aimera beaucoup plus Voltaire quand il sera empereur. Mais quand il a 19 ans et 20 ans, il est un disciple de Rousseau.
Alors venons-en au personnage lui-même, à sa nature. Vous lui faites dire, à propos de la chambre de Louis XVI donc, qu'il occupe aux Tuileries, elle est triste, oui, triste comme la grandeur. Est-ce que c'est une autoconfession? Est-ce que vous pensez que, au fond, Bonaparte, Napoléon, c'était un homme triste?
Ce n'était pas un homme gay. Il y a une formule que je reprends à propos de la cour. Il a dit à quelqu'un, je ne badine pas, je veux qu'on s'amuse à la cour.
Oui, je veux qu'on
s'amuse. Je veux qu'on s'amuse à la cour et je ne badine pas. C'est extraordinaire.
C'est pas très aristocratique. Aristocratique comme formule.
Et alors, évidemment, on voit bien que, bon, j'admire beaucoup, même si j'ai de grandes réserves sur Napoléon empereur, j'admire beaucoup Bonaparte consul, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule chez lui. L'uniforme impérial, c'est un peu ridicule. Les titres qu'il donne, quand même, pour séduire Cambacérès, qui est affolé à l'idée qu'on dise... Alors, il lui dit, est-ce que vous gardez les consuls? Et Bonaparte lui dit, non, je les supprime, ça ne sert à rien. Il est très inquiet, Talleyrand. Et Bonaparte lui dit, vous allez devenir archi-chancelier. Et archi-chancelier, c'est quand même un peu ridicule. Talleyrand dira, l'archi-chancelier s'archi-promène dans son archi-carrosse.
On imagine ce que les aristocrates de haute lignée devaient...
Les aristocrates se moquent beaucoup du protocole et de la cour impériale. Mais la réponse de Bonaparte est tout de même assez forte, n'est-ce pas? C'est celle dont nous parlions tout à l'heure.
Les petits.
Murat, mon beau-frère, et garçon d'écurie. C'est l'égalité. J'ai donné leur chance aux Français.
Mais ceci étant, il n'est pas du tout dupe de son entourage. Et vous le racontez d'ailleurs de façon très drôle. La considération qu'il porte aux membres de sa famille est très limitée en dehors de Pauline. Pauline a grâce à ses yeux.
Il adore Pauline. Ouais, vous savez, il y a eu beaucoup de mythes, beaucoup de bruits ont couru. Il aurait couché avec Pauline, c'est impossible.
Ah, oui.
Il était corse, on ne plaisante pas avec la famille. Il adorait Pauline et Pauline l'aimait beaucoup. Et Pauline s'est admirablement conduite avec lui.
La différence de Lucien et d'autres.
En 1815. Il y a aussi Joséphine ne lui donne pas d'enfants, mais Joséphine avait des enfants d'un premier mariage. Et elle avait notamment une fille qui s'appelait Hortense, qui était donc la belle-fille de Bonaparte. Et elle va devenir sa belle-sœur, puisqu'elle épouse Louis, le frère de Napoléon. Et elle sera la mère de Napoléon III. Et il y a des gens qui disent qu'il a couché avec sa belle-fille. Et c'est sûrement pas vrai non plus. C'est sûrement pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que sa famille a joué un grand rôle. Il réclamait des postes et lui disait assez drôlement, on dirait vraiment que nous sommes en train de nous partager les restes de notre défunt père le roi.
Alors l'avidité était quand même un signe.
L'avidité de la famille Bonaparte était assez grande.
Oui, mais Joséphine aussi, parce que les prodigalités de Joséphine, vous racontez une histoire,
du châle.
Oui, le châle, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on va laisser les gens découvrir l'histoire du châle.
Vous savez qu'elle est authentique.
C'est vraiment étonnant. Enfin, c'est étonnant. Elle résume toutes les prodigalités dont était capable Joséphine. Mais lui n'était pas du tout dupe de ça, alors qu'il l'aimait passionnément. Si vous aviez établi une hiérarchie dans les passions de Napoléon, disons lui-même, la France, Joséphine, dans quel ordre vous...
Eh bien, vous venez de le donner, l'ordre.
C'est l'ordre
lui-même.
Lui-même.
La France. Ouais. Il dit, pendant que ma sœur couche avec Fontane,
oui, c'est drôle.
Moi je couche avec la France. C'est une formule, lui, je couche avec la France. Et il adorait Joséphine. Et puis Joséphine l'a quand même beaucoup trompé. Elle l'avait trompé d'abord, antérieurement, avec Barras. Ensuite, elle l'a trompé avec le fameux capitaine ou commandant Charles. Et ça avait bouleversé Napoléon.
Mais c'était quoi, Joséphine? C'était un petit oiseau?
Elle devait être assez belle, avec des dents très abîmées. Et une espèce de grâce créole, n'est-ce pas? Elle venait de la Martinique. Et c'était le type même de la merveilleuse.
Mais lui n'était pas un incroyable, quand même.
Et lui n'était pas un incroyable. Il faisait tirer sur les incroyables.
Ouais,
à Saint-Roch, les incroyables sont les gens de droite et ils tirent sur les gens de droite.
Mais alors, vous avez raison de citer donc ce que Napoléon disait de Joséphine, car finalement, là, on est peut-être au cœur du portrait de l'homme. Il l'aime passionnément et quand même, il n'acceptera jamais d'aller au-delà de certaines limites. Et vous lui faites dire la chose suivante. Alors, est-ce que c'est vraiment authentique, ça? Parce que c'est vraiment étonnant. Mais je m'applique à répondre à toutes ces plaintes, il parle de la famille en général, mais Joséphine évidemment là-dedans, mais je m'applique à répondre à toutes ces plaintes par un éternel moi, M.O.I. N'en doutez pas, je sais que j'ai un destin, je ne m'en laisserai pas distraire par des intrigues, mais par des criailleries. Alors qu'il aime passionnément Joséphine.
Ah oui, c'est vrai, il aime passionnément Joséphine, il est très attaché à sa famille, mais...
Peut-être pas à Lucien, non? Parce que Lucien lui en a fait voir.
Lucien lui en a fait voir beaucoup. Ah, Jérôme épouse une Américaine.
C'est
comme De Gaulle.
Ça,
c'est ça. Il trouve ça gros. Épouser une Américaine, il trouve ça gros. Oui, oui. Mais évidemment, il se fait une idée de lui et de son étoile.
Oui,
et
ça.
Tant
toujours,
qu'il
toujours
aura
ça,
cette étoile, vous savez qu'il était d'un courage extraordinaire. Sur le pont d'Arcole, il se jette sur le pont d'Arcole et tous ses soldats lui disent « Général, planquez-vous !» Et il ne se planque pas et il y a un lieutenant qui se jette devant lui, il s'appelle Muiron, et il est tué d'une balle au cœur, qui était destinée à Bonaparte. Et il n'était pas ingrat. Quand il revient d'Égypte, c'est d'ailleurs stupéfiant. Comment est-ce qu'il revient d'Égypte? La flotte anglaise tient la Méditerranée. Il passe au travers sur une frégate qui s'appelle la Muiron. C'était le type qui s'est fait tuer à sa place sur le pont d'Arcole.
Ouais, c'est donc l'apprentissage de la grandeur, tout ça. Et on a l'impression, quand même, en lisant ce livre, et ce qui fait tout le charme, que parfois, vous-même, vous auriez préféré vivre à cette époque-là.
Vous savez, c'est une époque très amusante. Il y a une époque que j'aime beaucoup, et qui est le XVIIIe siècle. Mais Bonaparte, Talleyrand, naturellement, mais Bonaparte et Cambacérès, comme Chateaubriand, sont des hommes du XVIIIe siècle. Et dans leur conversation, il y a encore cette grâce, cette légèreté. Il y a cette légèreté
du
18e siècle, jointe évidemment au génie.
Mais quelque chose qui vous caractérise également, la perception positive de la complexité du monde.
Enfin, il l'a très fort.
18e, c'est ça. Quoi. On découvre que le monde est complexe et on le veut complexe, on l'accepte complexe, on n'a pas peur de la complexité.
Eh bien, vous avez tout à fait raison.
C'est vous, ça.
Bonaparte dit à un moment donné... J'ai un œil. Il voit cette complexité du monde et immédiatement, il voit ce qu'il faut faire pour venir à bout de cette complexité. C'est ça, les coups de génie. Vous savez que plusieurs de ces batailles sont perdues. Maringo est perdu à 5 heures du soir. Et à 6 heures, c'est une victoire.
Ouais, toujours, c'est-à-dire l'anticipation et après la vitesse.
L'anticipation.
Après tout, l'impatience, à partir du moment où elle est fondée sur l'imagination...
La vitesse.
Ça l'a servi.
La vitesse, l'impatience fondée sur l'imagination.
Et ça l'a servi.
Oui.
Alors, une chose que l'on découvre là également, mais là c'est presque en filigrane, mais on le découvre quand même. On savait que vous admiriez passionnément Bonaparte, on savait encore plus que vous admiriez passionnément Chateaubriand. Mais tous les deux, au fond, étaient des hommes de synthèse. Et,
oui.
Et finalement, ce qui sépare, et ça on le voit très bien, ce qui sépare Chateaubriand de Bonaparte, c'est la liberté.
Mais bien
non,
sûr,
c'est, ah, ça,
c'est,
hein,
c'est la liberté.
Ah, ça, on le voit très bien, là.
On le voit très bien. Évidemment, Chateaubriand est un défenseur de la liberté. C'est un homme de droite, mais il est porté en triomphe dans les révolutions de 1830 parce qu'il défend la liberté de la presse.
Mais il est très proche de Napoléon, finalement.
Non.
Enfin, en termes d'analyse,
il est très proche de Bonaparte.
De Bonaparte, voilà.
Il est très proche de Bonaparte.
C'est
et,
ça. Hein.
Et lui-même dira, même quand je détestais Napoléon, j'ai toujours admiré Bonaparte. Vous savez que le génie du christianisme est dédié à Bonaparte. Et de la même façon que Beethoven a dédié le concerto L'Empereur à Napoléon, et puis après il est revenu en arrière, comme Chateaubriand est revenu en arrière après l'exécution du duc d'Enghien.
Mais concernant le christianisme, il y avait quand même un fossé énorme entre Chateaubriand et Bonaparte, dans la mesure où pour Chateaubriand, le christianisme fondait la liberté, alors que pour Napoléon et Bonaparte, c'était simplement une question d'ordre.
C'était uniquement, c'était
la police, quoi.
C'était un truc.
Un truc, oui.
C'était un truc, mais il se trouve que génie du christianisme paraît 48 heures avant la réouverture par Bonaparte, le jour de Pâques 1802 de Notre-Dame de Paris, après 10 ans de fermeture, et c'est une scène extraordinaire, parce que Bonaparte, habillé de rouge, entre avec ses généraux, ses colonels, ses capitaines, ses lieutenants, qui ont tous entre 17 et 25 ans. Aucun d'eux ne sait ce qu'est une messe. Et au premier rang, il y a deux fauteuils où sont assis deux personnages qui savent ce que c'est qu'une messe. L'un est Talleyrand, ancien évêque, et l'autre est Fouché, ancien séminariste.
Oui, ce ne sont pas les deux témoins les plus évidents de l'Évangile.
C'est une scène hallucinante.
Oui. Mais là, au fond, Chateaubriand, politiquement, il était anglais.
Oui, mais avec une intelligence.
Non, ça, vous dites mais, c'est-à-dire que
oui.
C'est vrai, non ? Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais le régime qu'il défendait, c'était la monarchie anglaise, en fait, Chateaubriand.
Vous savez...
Non ? On ne peut pas dire ça ?
Chateaubriand...
C'est une injure à la culture française, mais...
Non.
En tant que modèle, enfin son modèle, une monarchie héréditaire, libérale, liberté de la presse, liberté d'opinion, les Anglais le faisaient déjà à ce moment-là.
Vous savez, ce qu'il y a avec Bonaparte, c'est qu'il est très contradictoire. Il est très contradictoire. D'abord, il aime beaucoup les soldats, mais il croit que les sabreurs doivent le céder aux administrateurs.
Et c'est d'où Cambacérès.
Et à Cambacérès, c'est un administrateur de génie. Il gagne les batailles, mais il fait aussi le code civil, il fait le concordat, il crée les préfets, il crée les lycées. Tout ce sur quoi nous vivons encore a été fait en partie par Bonaparte.
Et pratiquement l'Europe, d'ailleurs.
Et d'une certaine façon, l'Europe. D'une certaine façon, l'Europe.
Mais quand on voit Chateaubriand écartelé, lui, entre le passé et l'avenir...
Oui, il l'est.
Écartelé, douloureusement.
Il l'est.
Vous-même, vous n'avez jamais été écartelé comme ça. Vous avez réussi, vous, à faire cette synthèse-là plus, je dirais pas joyeusement, mais plus sereinement, non ?
J'ai toujours pensé que la tradition et le progrès pouvaient marcher ensemble.
Mais vous l'avez vécu sereinement. Vous
je l'ai vécu plus sereinement que...
Lui, il faut dire que lui avait un passé familial.
Voilà, et il faut dire qu'il était dans une époque tragique et on ne voyait pas l'issue. On ne voyait aucune issue. Et évidemment, il découvre les issues. Le concordat, c'est une issue. Rayer les émigrés de la liste des émigrés, c'est une issue. Il met fin à la Révolution en sauvant les acquis de la Révolution. Les gens de droite, encore une fois, il ne faut pas dire les gens de droite, mais les Chouans, les royalistes, les Vendéens, les partisans de Louis XVI, se disent il est le seul à pouvoir arrêter la Révolution. Et les gens de gauche, les Jacobins, qui ont acheté des biens nationaux, se disent c'est le seul...
Oui, ça c'est le rempart.
C'est le seul qui est le rempart contre le retour des Bourbons. Si les Bourbons reviennent, ils nous reprennent nos propriétés.
Oui, oui.
Enfin, les propriétés que nous avons achetées, que nous avons prises aux anciens privilégiés.
Est-ce qu'il serait possible d'imaginer un dialogue comme celui que vous avez imaginé là, entre Napoléon et Chateaubriand?
Mais écoutez, je me dis, au fond, il aurait
ça,
fallu...
Ça serait vous-même, ça serait...
Il faudrait...
Vous n'êtes pas encore au temps du testament, mais ça serait un testament de Jean d'Ormesson, ça.
Il faudrait faire une conversation...
Avec vos deux grandes passions. Il manquerait une femme, il faudrait mettre une femme là-dedans.
Une conversation...
Peut-être Madame de Staël.
En 1815, ouais. Entre
génial,
Napoléon
ça.
Et Chateaubriand, ou entre Napoléon et Benjamin Constant.
Personnage plus complexe encore.
Plus complexe.
plus complexe.
Torturé, oui. Bizarre, bizarre. Mais c'est vrai que Napoléon avait cette conscience précise de la particularité de Chateaubriand et de Talleyrand au-dessus des autres.
Oui, absolument. Ouais. De Talleyrand, il disait, il a de l'avenir dans l'esprit. Et de Chateaubriand, il disait que c'était la plus forte tête de son temps. Mais il disait, il est insupportable, les hommes de lettres sont insupportables, surtout quand ils ont réussi. Et ce qui me gêne avec M. de Chateaubriand, ce n'est pas de l'acheter, ah oui. C'est de l'acheter au prix où il s'estime.
Oh, ça, c'est vraiment
ce qui est quand même une formule inouïe.
Alors, vous avez, vous, une formule dans le prologue, page 20, pour résumer Chateaubriand, après avoir dit ce que vous avez répété tout à l'heure, qu'il est peut-être même au-dessus d'Alexandre et des autres, et vous dites, Napoléon, c'est un échec, mais éblouissant.
Oui, c'est assez vrai, c'est un échec, c'est un échec. Il est vaincu, la France est plus faible qu'elle ne l'était, mais c'est un échec éblouissant parce que quand même, il a exporté, c'est pas un exemple à suivre, mais il a exporté la liberté au bout des baïonnettes, il a changé l'Europe, et évidemment, il a transformé l'histoire, c'est vraiment... Un changement.
Mais dans l'homme, qu'est-ce qui vous paraît le plus éblouissant dans tout ce qu'on a évoqué de lui, là ? L'homme lui-même, Bonaparte, ou Napoléon ?
La capacité, il dit à un moment donné, je n'ai jamais créé les circonstances, je me suis servi des circonstances. C'est cette façon de se servir des circonstances.
Le génie de la politique.
Vous voulez qu'on dise, pour dire les choses avec un vocabulaire moderne, il chevauche le tigre. Il chevauche le tigre, il va au-devant de la difficulté, il dit où est le problème ? Le problème c'est que la révolution a tout foutu en l'air, que plus rien ne marche, comment ? Et on ne peut ni revenir en arrière, ni continuer. Eh bien il faut à la fois finir la révolution et la mettre au pouvoir en reprenant la continuité du passé. C'est la capacité... de dominer les circonstances.
Donc il chevauche le tigre sans avoir peur d'être face au lion, ni aux vipères, ni à quoi que ce soit.
Ah oui, il n'a pas peur.
Peur de rien.
Ça, il n'a pas peur.
Alors vous n'êtes pas obligé de répondre à la question que je vais vous poser là, mais je pense qu'elle est la conséquence logique de ce qui vient de précéder. Est-ce que Nicolas Sarkozy a quelque chose de Bonaparte ?
Alors, naturellement, je n'ai pas pensé à... Il y a deux choses auxquelles je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé au théâtre en l'écrivant. J'ai écrit une...
Non, mais d'autres y ont pensé pour vous.
L'autre y pense certainement. Oui.
Dans un an,
et,
on y sera.
Je n'ai
dans
pas
un...
pensé à Sarkozy, mais les comparaisons sont là.
Ça va de soi, ou...
Et il y a une grande différence, c'est la popularité. La popularité de Bonaparte est formidable. Et vous savez, il sera soutenu jusqu'en 1815. Et au-delà de 1815, quand les cendres reviennent, il y a 2 millions de personnes qui accompagnent le retour des cendres. Ce qu'il y a, c'est évidemment l'idée, la sécurité, le travail, reprendre les choses en main, voilà.
Mais est-ce que vous imaginez, entre vous et Nicolas Sarkozy, une conversation de cette nature sur la République ?
Oh mon Dieu, lui il n'est peut-être pas Bonaparte, et moi je ne suis sûrement pas Talleyrand, je ne suis même pas Cambacérès.
Non mais là vous trichez un peu, vous trichez un peu. Pas de fausse modestie, je crois savoir que ce sont des conversations que vous aviez engagées avec François Mitterrand et même avec Valéry Giscard d'Estaing.
Oui,
celui
avec lequel j'ai le plus parlé, c'est mon adversaire, c'est Mitterrand.
Mais vous avez toujours adoré ça, vous avez toujours adoré
c'est naturel.
Établir un pont avec les adversaires.
Vous savez, c'est naturel, Giscard a fait moins appel à moi parce qu'il savait que je lui étais acquis. Il n'avait pas besoin de moi. Il faut essayer de le séduire. Et il m'a séduit. Comment il m'a séduit ? Par la vanité. Exactement comme dit
Léo Hochet.
Par la vanité, par Léo Hochet.
Mais dans les conversations sur la République que vous avez pu avoir avec François Mitterrand, est-ce qu'il vous en reste quelque chose ?
Oui, vous savez, il m'a beaucoup plus parlé, plus que de la République, de la démocratie, de la droite et de la gauche. Il m'a parlé des Charentes, de sa mère, de la religion, de Dieu, de la littérature et de ce que devient l'âme après la mort. Ouais,
c'était au plaisir de Dieu, quoi.
Voilà.
Il était impressionné par ça. Alors, il y a cette formule de Bonaparte donc, que vous reprenez, là. La politique est la forme moderne de la tragédie. Là, évidemment, on revient au général de Gaulle, quoi.
Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai, vous savez, c'est vrai qu'il y a une forme de tragédie là-dedans. Et on ne peut pas ne pas penser dans cette soirée de 1803-1804 aux Tuileries. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à ce qui va se passer 12 ans plus tard dans la plaine de Waterloo, n'est-ce pas ?
Et ce qui est étonnant, c'est que là, nous sommes Nous sommes dans la tragédie et en même temps la fin, dans la façon dont il retourne. Enfin, il retourne, il n'a pas besoin de le retourner, si je veux dire.
Il le retourne.
Par la vanité totale. On est dans le bûcher des vanités. Là.
Ah oui, après avoir expliqué qu'on tient les hommes par les hochets et les vanités, c'est ce qui marche. Comment Hochet, il lui dit, il allait être duc de Parme et archichancelier et altesse sérénissime. Et l'autre est enchanté. Pas d'ailleurs, vous savez ce qu'il fera quand Macérès, à quoi il sera attaché. Il sera attaché plus particulièrement au roi de Rome. C'est lui qui donne, quand Napoléon est en Russie, c'est lui qui lui donne des nouvelles du petit roi de Rome, comment il va, sa santé, c'est comment ça. Il est une espèce de gouvernante du roi de Rome.
Alors vous disiez tout à l'heure, je retrouve la formule, là on est vraiment au cœur de la démarche napoléonienne, « J'aime la grandeur, je ne donne rien au hasard ». Comment expliquez-vous qu'un tel homme, avec une telle intelligence, une telle imagination, une telle capacité d'anticipation, ait pu se laisser entraîner à la campagne de Russie ?
Eh bien, ça, c'est le mystère, n'est-ce pas ? C'est tout homme a vu le mur qui borne son destin. C'est la folie, c'est l'hubris, c'est le vertige du pouvoir qui est un désastre. Et il y a l'Espagne qui déjà annonce le désastre, et puis le désastre final qui est la Russie. Et inutile de lui faire entendre raison, il se précipite vers son propre destin. Il faut dire qu'à la fin, il reconquerra la défaite, l'emprisonnement et la mort. Il va les transformer en légende. Il va être vaincu par sa propre histoire, mais il reprendra son histoire pour la transformer en légende. Et là, on peut dire que c'est son dernier triomphe.
Ça aurait pu être un grand personnage de Victor Hugo, en fait.
Oh oui, ça l'est d'ailleurs, Victor Hugo l'adorait.
Ainsi s'achève cette émission, réalisée donc à l'occasion de la publication du dernier livre de Jean d'Ormesson, La Conversation. Livre tout à sa manière, associant au plaisir de la culture, de l'intelligence, de l'imagination et du style. Jean d'Ormesson, merci. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci à vous.
Thank you.